Ce n'est un secret pour personne, la gourmandise est sacrée pour moi. Alors quand Koro m'a proposé de devenir partenaire de ce podcast, j'étais plus que ravie. Si vous ne connaissez pas encore Koro, ce sont les pionniers de l'alimentation saine et durable, et vous pouvez trouver sur leur site aussi bien des super aliments, des snacks ou encore les meilleures purées d'oléagineux que j'ai la chance de goûter, mention spéciale pour la purée de cacahuètes crunchy. Et ce qui est particulièrement cool dans la démarche de Koro, c'est qu'au-delà de proposer une très large gamme de produits naturels, dont la majorité sont vegan et bio, leurs engagements se traduisent aussi dans la façon dont ils ont imaginé la marque. Ils proposent d'acheter en gros, dans des grands emballages pratiques et minimalistes, ce qui permet de vous proposer les prix les plus justes possibles. Autant vous dire que j'ai fait la razzia au bureau, on est venu remplir le bar à céréales avec les crispies au chocolat et le granola crunchy. Et ce qui est génial, c'est que quel que soit votre régime alimentaire, vous pourrez trouver votre bonheur. Et pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, on vous offre avec Koro moins 5% de remise sur votre prochaine commande Koro avec le code INPOWER, INPOWER, pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.koro.fr et surtout, régalez-vous.
Je lui ai dit, je me suis inscrite à la Nouvelle Star. Et je me suis effondrée, tu vois. C'est fou.
C'est une femme qui n'a pas peur de faire entendre sa voix. La chanteuse et actrice Camélia Jordana est sur INPOWER cette semaine.
Tu vas faire un album, ta vie va changer. Et tu vois, je me disais, putain, je vais être sur le plateau du grand journal, quoi. Je croyais pas ce que j'entendais. C'était fou.
T'as toujours su que tu allais devenir artiste ?
Gamine, je me suis toujours dit, mon rêve, c'est d'être chanteuse et ou actrice. Pour moi, t'étais soit Madonna, soit prof. J'ai mis toute ma santé, toute mon énergie, toute mon âme quotidiennement.
Camélia s'ouvre à cœur ouvert sur l'état de sa santé mentale, ce qui l'a aidée à se construire, ce que la thérapie lui a apporté et ce qu'elle a décidé de laisser derrière elle.
C'était comment être construite à l'envers ?
Ok, là, je réagis de telle manière... Pourquoi ? Je me sens pas considérée comme tout le monde, en fait. Et en écrivant ça, j'ai pleuré.
Comment évoluer dans une société qui ne partage pas les mêmes valeurs que nous ? Comment réussir à trouver sa place ? Comment affirmer qui l'on est ?
C'est dur.
Désolée, t'es pas ma priorité ?
Y a plus rien. Y a la place pour rien d'autre que ça.
Ah, c'est beau, ça me touche.
Je suis vraiment complètement addict à ça.
C'est quoi la période la plus difficile de ta vie ?
Absolument personne n'a rien dit. C'est le pire.
Qu'est-ce que tu ressens ?
Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Camélia Jordana. L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes INPOWER, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront voilà, le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute! Bonjour Camélia.
Salut.
Je suis trop contente de t'avoir sur
Moi aussi, je suis contente d'être avec toi, Louise.
J'adore parce que c'est vraiment improbable. Genre, c'est vraiment... on est à Sérimania.
On est à Lille.
Ça s'est fait très One rapidement.
One shot, bam, voilà. Bim, bam, schlack.
Mais écoute, j'en suis ravie. Parce
bah,
que,
moi aussi.
Parce que je suis obligée de l'avouer, tu m'as foutu un vent en DM.
Non
si. Ouais, mais je pense qu'il y a longtemps.
Pardon.
Genre, il y a 2 ans.
Tu sais que je suis nulle en DM, en WhatsApp.
Ok.
En mail, j'ai renoncé. Je ne lis plus mes mails.
Ok.
Carrément, on est quand même un vrai niveau.
Un niveau de renoncement.
Ça y est, fin.
Affiché.
La résilience incarnée. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi, vraiment. Mais texto, what? Non. Enfin, si, en fait, je te dis. Honnêtement, j'ai regardé
quoi,
hier parce
fait,
que j'ai croisé
ça,
une super pote à moi.
Okay.
Et elle me dit je t'ai envoyé un WhatsApp, mais je pense que t'as pas vu, on s'était dit qu'on se prenait un café. J'étais genre bah oui, mais prenons date maintenant, comme ça on le fait, tu vois, ce qu'on a fait. Et j'ai regardé mes WhatsApp pour lui montrer et j'avais 300 WhatsApp de retard.
Et tu communiques comment du coup? T'appelles? Tu...
En fait, WhatsApp, je pense que c'est mon plus gros. Enfin, c'est le moyen de communication le plus efficace me concernant. Okay. Mais ce qui marche, c'est horrible à dire, mais c'est soit les dernières personnes.
Ouais.
Parce que comme ça, bah, c'est tous les derniers que je vois, je peux répondre. Et du coup, si entre temps, il y a eu plein d'autres personnes, bah, le mieux, c'est de renvoyer. C'est horrible. Hein.
Mmh.
Mais bon, après, du coup, moi, je fais comme ça avec les gens aussi. Quand j'ai pas de réponse, je dis ah, coucou, au cas où t'aurais raté, je relance.
Mmh.
Parce que non, mais c'est une catastrophe. Franchement,
bah,
je suis.
Notre époque. On vit avec notre époque.
Je suis pas au top avec ça. Donc, désolé pour le ghosting, c'était absolument pas ma...
Bah écoute, c'est pas grave,
mon
je te pardonne. Je suis très contente que là, on arrive à se voir.
Ouais, moi aussi.
Et on va parler de pas mal de choses. On va parler de pas mal de choses. Déjà, du coup, je te disais, j'ai un biais d'avance parce que j'ai lu ton interview dans Marie-Claire.
Ouais.
Donc, on a été interviewés.
Contrairement à moi.
C'est bien comme ça, tu as
non, c'est pas vrai. En vrai, je l'ai relu. Non, en vrai, je l'ai relu. J'ai pas lu la version publiée,
ouais.
Mais j'ai lu une version.
Mais donc, où tu te livres beaucoup sur la santé mentale.
Ouais.
Je te remercie. Vraiment,
gentil,
on a
merci.
Besoin de libérer la parole autour de ces sujets.
Mm-hmm.
Et puis, tu as tellement de casquettes. Je trouve ça hyper intéressant, en fait. J'ai envie de comprendre ce qui te nourrit, ce qui t'anime, voilà, tes projets, tes ambitions. Mais avant tout ça, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
Moi ?
Ouais.
Putain, merci, c'est tellement rare,
veux,
ça.
Ouais.
Ça n'existe pas. Eh ben, je me présente, je m'appelle Camélia Jordana Aliwan. Je porte le nom des dernières générations de ma famille paternelle et mon nom de famille a été changé par les autorités françaises en Algérie il y a plusieurs générations. Donc ce nom-là me relie aux générations précédentes et me coupe de mon lien à mes ancêtres.
En quoi ça a construit qui tu es aujourd'hui, ce passé ?
Je pense que ça, aujourd'hui, je sais pas en quoi ça me construit. Ça m'a construit, d'une certaine manière. Ça m'a construite d'une certaine manière. Et aujourd'hui, justement, je suis en train d'essayer de déconstruire tout ça pour me reconstruire à l'endroit. Mais c'est pas facile quand il y a du vide.
C'était comment être construite à l'envers ?
C'était l'assimilation inconsciente. Et l'assimilation inconsciente, ça fait beaucoup de dégâts. Mais du coup, quand on la voit, après, c'est une grosse réparation, quoi.
Qu'est-ce qui t'a permis de la voir ?
Beaucoup de choses. D'abord, le regard sur moi qui a changé de la part du monde qui m'entourait. Particulièrement après le premier déclencheur, le premier élément déclencheur, je pense que ça a été l'attentat chez Charlie Hebdo. J'étais à Zagreb en Croatie au moment où ça arrivait. Je me suis sentie profondément française parce que je sentais que j'avais besoin d'être dans mon pays, d'être avec ma famille, avec mes amis. Et en même temps, quand je suis rentrée, enfin déjà, même à Zagreb, si tu veux, les Croates me voyaient comme une Française et les Croates nous envoyaient, nous donnaient, nous disaient, nous livraient des messages d'amour et de soutien. Ce qui était hyper touchant là-bas, ouais. Tu vois. Et en rentrant, en fait, j'ai vu quoi que c'était fini. Le regard, il avait changé. Et depuis, je l'ai vu se durcir. Et indépendamment de l'assimilation, j'ai quand même toujours eu un lien à mon africanité, à mon arabité, à mon identité et à ma tradition et à ma culture via ma famille. Mais ça a toujours été intime. C'est toujours une chose qui était à l'intérieur. Et suite à ça, comme c'est devenu extérieur, mais dans ma vie d'adulte, à travers le regard des gens et la manière dont j'étais considérée et traitée, ça a fait que ça a été comme un électrochoc et je me suis dit mais en fait là je me sens plus vue comme une Française, je me sens vue comme une Arabe et comme un danger et comme une personne qui a pas les mêmes je me sens pas considérée comme tout le monde en fait.
Ça crée quoi en toi cette idée, ce ressenti?
Au moment où je l'ai constaté, où je l'ai ressenti, je pense que ça a déclenché en moi beaucoup de colère. Un sentiment d'injustice évidemment profond et du coup beaucoup d'inspiration pour de la musique et ça a créé, pas que parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui étaient à l'origine des petites genèses pour ça, mais ça a été l'un des éléments déclencheurs de mon troisième album Lost, qui est l'album dans lequel pour la première fois notamment je chante en arabe, en français, en anglais aussi mais en arabe.
C'est ça que je trouve très difficile dans le rapport à la création,
ouais.
C'est est-ce qu'on doit finalement souhaiter traverser des épreuves parce que finalement ce sont ces épreuves qui sont la source d'énormément d'art avec un grand A, tu vois. Est-ce que tu serais une artiste aujourd'hui ou l'artiste que tu es si tu n'avais pas traversé tout ce que tu as traversé?
Non, j'en serais une autre, c'est évident, mais j'aurais traversé d'autres choses. Donc moi je pense pas qu'il faille absolument, c'est marrant, on en parlait ce matin justement en masterclass avec Margot en entretien et la question c'était est-ce qu'il faut de grandes blessures sentimentales pour pouvoir être inspiré et tout ça. Je pense pas qu'il faille, en revanche évidemment que ça nourrit, évidemment que ça inspire, mais même pas forcément, alors une blessure beaucoup oui, mais même un crush en fait. Moi, j'ai un crush, j'ai 4 chansons, quoi, vraiment.
Ah ouais.
Mais ouais, c'est radical.
Je te souhaite d'avoir des crushs.
Merci, je nous souhaite. Si, je nous souhaite ça. Mais j'avoue que c'est quand même... je pense pas qu'il faille. En revanche, ce qui est certain, c'est que je ne serais pas la femme et l'artiste que je suis aujourd'hui sans ce chemin-là. C'est certain.
Qu'est-ce que ça a changé, du coup, dans ton rapport à ton identité, à tes origines ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense pas avoir... était traversée par l'envie de montrer que j'étais digne d'être française, parce que je me suis toujours sentie française. Et je me suis toujours sentie arabe, je me suis toujours sentie algérienne, je me suis toujours sentie kabyle. Ça fait quelques temps que maintenant je me sens berbère. Si tu veux, la place que ça a eu, par exemple, dans cet album-là, ce que je raconte, à un moment je dis en arabe, on ne cherchera pas à comprendre, on ne cherchera pas à vous faire comprendre. On est sur notre chemin de lumière, on se concentre dessus et on avance. j'ai l'impression que s'il y a une autre option que celle-ci, je ne vois pas comment elle peut encourager au vivre ensemble, en fait. Mmh. J'ai l'impression que, enfin, tu vois, moi, j'ai pas à parler pour tous les Arabes de France, pour tous les musulmans de France. En revanche, le fait d'exister, le fait d'être là, le fait que des petites filles arabes ou autres voient une femme avec des cheveux frisés sur des plateaux télé, dans des films. Peut-être que pour elles, c'est du coup moins difficile de porter leurs cheveux naturellement, tu vois. On a fait un shooting pour un magazine avec mon équipe magnifique l'été dernier. Et je portais mes cheveux frisés et j'étais hyper heureuse des photos. Et donc quand mon coiffeur les a montrés à sa nièce, qui elle-même a les cheveux très frisés, très blonds, l'été qui a suivi, pour la première fois de sa vie, à 14 ans, elle a porté ses cheveux frisés.
L'importance de la représentation, quoi.
Tu vois.
T'as eu du mal, toi, en grandissant avec, de manière générale, l'acceptation de soi, de ton apparence?
Bien sûr. Mais en fait, je ne l'ai pas vécu comme j'ai eu du mal avec mon apparence. C'est le principe de l'assimilation. C'est qu'en fait, c'était complètement internalisé, intériorisé et névrotique le fait que la moindre goutte de pluie foutait ma vie en l'air. Parce que, et c'est le cas encore d'amis à moi, vraiment. Et pour autant, elles sont déconstruites, éduquées sur beaucoup de choses, mais il n'empêche que... En fait, c'est ça le trajet et l'impact que ça a eu et que ça continue d'avoir. J'étais vraiment très, très, très névrosée, obsessionnelle, en fait, avec ça. Et depuis gamine, les brushings, le cheveu raide, le cheveu lisse qui ne dépasse pas, qui brille, qui ne sans frisottis, sans voilà, c'est et ça traduit tellement, bien sûr.
T'avais d'autres complexes ?
Ouais, j'ai toujours eu des complexes, ouais. Ouais, j'en ai eu plein.
Ouais. C'est horrible quand on y pense. Hein. Genre, franchement, j'ai pas
une
femme.
On a toutes des complexes, non, toi aussi?
Bah oui, bien sûr. Mais
je connais pas une femme qui ait pas de complexe.
J'ai fait un micro trottoir. Bah si, j'ai fait un micro trottoir. Ah ouais. En tout cas, ils portent pas du tout sur les mêmes sujets, tu vois. J'ai fait un micro trottoir où je demandais quel est votre plus grand complexe.
Ouais.
Et les femmes, enfin, n'avaient vraiment pas besoin de réfléchir, tu vois. C'était direct et c'était beaucoup par rapport à leur poids ou par rapport à leur apparence physique.
Ouais.
Et les hommes avaient du mal à trouver. Et quand ils trouvaient, c'était beaucoup plus. Intellectuel ou genre, c'était manque de culture générale, je suis pas assez cultivée. Et donc en fait, j'ai juste trouvé ça, c'est pas bien ou mal, c'est juste représentatif
bien
et symptomatique de ce pourquoi on accorde de la valeur aux hommes comme aux femmes. Quoi.
Complètement.
Et j'attends qu'un jour on me réponde à cette question. Ah non, moi j'ai jamais été complexée, j'ai toujours été très à l'aise avec mon corps. Tu vois.
Je nous le souhaite, souhaite que ce moment arrive.
Est-ce que tu l'es encore?
Non.
Ok.
Complexée, non.
Ok. Qu'est-ce qui a aidé à dépasser les complexes?
Enfin non, je te dis ça, mais en fait, si, j'ai encore un complexe quand même. Mais qui est physique aussi.
Alors si t'en as un, si c'est un singulier, t'es obligé de nous le dire.
C'est mes bras, je déteste mes bras.
Enfin,
déteste pas mes bras. En fait, la trentaine est arrivée.
Ok.
Et en fait, j'ai remarqué que j'ai toujours été complexée de mes bras. Mais il n'y a pas longtemps, tu sais, t'as ton téléphone qui te propose des photos d'il y a un an, d'il y a deux ans. Et j'étais genre, je tombais sur des photos, j'étais genre, mais j'étais complexée de ça il y a un an, alors qu'ils étaient trop bien là. Alors que là, et je pense que ça va être comme ça
pendant
un moment, jusqu'au moment où j'arriverai officiellement à me lâcher la grappe. Mais en même temps, il y a des moments où j'arrive à me dire, non, là, en fait, là, c'est OK.
Ouais.
Donc je suis sur le chemin encore, tu vois.
Ouais.
Qu'est-ce qui a aidé les livres féministes et les podcasts.
T'as un livre à nous recommander qui t'a aidé, qui t'a fait du bien?
Oh, il y en a plein. C'est Beauté fatale, je crois. Le
livre de Mona Chollet.
De Mona Chollet, ouais, qui m'a pas mal aidée.
Il est incroyable.
Ouais, il est incroyable.
Ah, ouais.
Beauté fatale, ça m'a beaucoup aidée. Les BD de Liv Stromquist ou Stromquist. Je n'arrive plus à savoir.
C'est vraiment, ma cousine m'a laissé avant-hier la BD sur mon bureau.
Ah ouais?
Ouais, c'est sur les hommes.
Hyper bien.
Enfin, je sais plus quel est le titre, je le mettrai dans les notes.
Elles sont toutes incroyables.
Ok.
Je les aime beaucoup. Et il y a aussi. Non, la sororité aussi. La sororité, ça m'a vachement aidé à me décomplexer parce que je me suis rendu compte que même les femmes qui, pour moi, sont des sirènes, sont complexées. Et je suis genre, non, mais là, en fait, on n'en sortira jamais, quoi, si on en est là. Et ouais, en fait, les livres féministes, les podcasts ont fait que j'ai réussi à déplacer ma valeur, mon regard sur ma valeur.
Tu la places où, maintenant, ta valeur?
Dans celle que je suis. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que je suis une bonne personne, que j'ai été faite par des gens qui m'ont transmis des valeurs importantes et rares, en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient dures à trouver chez les gens.
Ah, tu les cherchais inconsciemment?
Pour moi, je les cherchais pas parce que pour moi, elles étaient acquises. Tu sais, c'est comme le principe de t'as grandi dans un cadre un peu chelou et puis en fait, en grandissant, tu te rends compte que c'est pas la norme.
Ouais.
Bah, pour les valeurs qu'on m'a transmises, c'était aussi le cas.
C'était quelles valeurs?
La loyauté, la générosité, le partage, l'empathie, la compassion, l'écoute, la prise en charge. C'est des choses du coup que je respecte encore plus qu'avant. Parce que je me rends compte que ce sont en fait les qualités de ma famille, quoi. C'est vraiment les qualités de mes parents, de mes oncles, de mes tantes. Et j'ai grandi dans ça. Et donc, pour moi, je partais du principe que les humains avaient tous et toutes cette base-là. Et qu'après, on avait des qualités, des défauts, des trucs. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que c'était intrinsèque à l'éducation qu'on m'avait transmise. Et qu'en fait, c'était des qualités rares à trouver chez les gens. Donc, comme je disais, des qualités que j'estime énormément chez les gens.
Quel est le défaut que tu exècres le plus ?
Un seul, c'est pas facile. Hein.
Tu peux en dire plusieurs.
Ok. Il y en a un que je supporte pas, c'est les gens qui coupent la parole tout le temps. Je trouve ça insupportable.
Je m'excuse par avance pendant tous les premiers épisodes d'InPower que j'ai fait où je coupe beaucoup la parole.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Bah, c'est parce que tu devais être hyper excitée, non ? Mais de comprendre,
en fait, c'est sûr
que.
Ouais, comme pour moi, c'était une conversation.
Ouais.
En fait, je sais pas si je coupe la parole, mais je rebondissais sûrement trop vite.
Ouais. Donc, mais je te dis, moi aussi, je fais ça de ouf. Hein.
J'ai appris
c'est
à.
C'est horrible.
Mais donc, ok. Hyper intéressant. Donc, t'as ça comme défaut.
Mais moi-même, je coupe la parole. Alors, pas autant que les personnes sur lesquelles je l'identifie. Je suis genre, mais je ne peux pas finir une phrase, quoi. Ouais, en fait, ça résume ce défaut que j'aime pas trop, c'est le manque d'écoute chez les gens. Ah non, et il y a une chose que... Alors, pas du tout que j'exècre, mais qui est pour moi une fin de projet.
Un red flag, disons-le.
Un red flag, mais vraiment, que ce soit dans le pro, comme dans le perso, comme dans... Tu vois, c'est les gens, justement, qui n'ont aucune conscience de leur cerveau, de comment leur cerveau est construit et de... leur propre mécanisme, enfin, tu vois. Et c'est pas pour autant que j'ai pas d'empathie pour ces gens-là et que je... Voilà, mais que je les côtoie pas pour autant ou quoi que ce soit, mais simplement, les personnes dont j'identifie qu'elles n'ont pas connaissance de la structure de leur cerveau sont pas des personnes, malgré moi, c'est devenu un automatisme que je laisse entrer dans mon intimité.
Comment tu repères ces choses-là ?
Bah, je trouve que ça se voit de ouf, non ?
Ben, je suis en train de réfléchir.
Ah, quand tu digues un peu, tu vois que les gens...
Je vois rapidement des personnes hypocrites, je vois rapidement des personnes qui sont égoïstes, mais des personnes qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes.
Ça, moi, je le vois moins, tu vois.
Ah, c'est marrant. Ouais. C'est marrant. Ouais. Parce que je me dis, tout le monde a conscience de soi. Enfin, après, il y a un niveau de connaissance de soi qui est plus ou moins important, tu vois.
Ouais.
Mais je trouve que ça demande d'être très proche d'une personne pour parvenir à vraiment s'en rendre compte.
Ah ouais, moi je trouve
à quel
pas
point
du tout.
Il ou elle se connaît, tu vois.
Ah ouais, moi je trouve pas du tout.
Ah ouais, c'est fascinant. Et comment toi, t'as appris à te connaître ?
J'ai eu la chance d'aller voir des psys dès petite. Et du coup, j'ai grandi avec la notion de travail sur soi, en fait. Mmh. Et donc de, ok, là je réagis de telle manière, pourquoi ? Je réagis pas de telle manière juste parce que c'est normal de réagir comme ça, parce que n'importe qui pourrait réagir différemment. Tout le monde réagirait différemment dans telle ou telle situation. Moi, je réagis de telle sorte, enfin de la sorte, parce que cette situation me fait me sentir comme ça. Pourquoi est-ce que quand je me sens comme ça, ma réaction, c'est ça ? Est-ce que je peux récupérer mon libre arbitre sur cette situation-là si le fait que je réagisse comme ça me dérange ? Et si une fois que j'ai récupéré mon libre arbitre, est-ce que je choisis de continuer dans cette direction-là ou est-ce que j'essaye autre chose ? Et ça, pour moi, c'est essentiel, en fait. Parce que sinon, t'es face au fond du crâne de quelqu'un et t'es pas face à la personne, quoi. Et ça, j'aime pas trop.
Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, en fait, c'est un peu identifier nos schémas,
ouais,
et réussir à s'en détacher, quoi.
S'en détacher ou les embrasser, mais avoir le libre arbitre sur ça. Mmh. Choisir. Et pas se faire dépasser par nos angles morts tout le temps.
T'avais quoi comme schéma qui était très présent et que t'as réussi à... ou embrasser ou dépasser ?
J'avais le syndrome de l'impostrice de ouf, par exemple.
D'accord.
De ouf, de ouf, de ouf, de ouf.
Ouais.
Sentiment d'illégitimité, j'avais pas du tout confiance en moi. Et puis j'avais ce truc avant où j'étais tout le temps en train d'anticiper les désirs et les besoins des gens pour pouvoir les satisfaire, limite avant même que ça leur soit monté, quoi, tu vois.
Mmh.
Et donc j'avais ce truc de...
People pleaser, quoi.
De ouf. Ça va beaucoup mieux. Thank God.
Parce que tu as pris conscience et que tu as réussi au fur et à mesure à t'en détacher ? Parce que je trouve ça difficile quand c'est presque un conditionnement, en fait.
Ben, honnêtement, les psys, ça aide à ça, hein, je trouve. Moi, c'est vraiment ça, ma solution. Après, peut-être qu'il y a des gens sur qui ça marche pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé d'autres formes de réappropriation de son cerveau à ces endroits-là. Mais me concernant, moi, je sais que c'est vraiment ça, quoi. C'est travailler avec des thérapeutes qui fait que... En fait, c'est se comprendre. Et quand on se comprend et quand on comprend d'où viennent les choses et pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière, je trouve qu'on acquiert de la liberté et qu'on se rapproche de soi. Dans le sens où on se rapproche de qui on est, nous, indépendamment de la valise qu'on traîne qui est liée à telle expérience qui fait que, malgré nous, on est loupé dans le même cercle ad vitam, tu vois.
Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, c'est bon, là, je pense que j'ai plus besoin d'aller voir un psy? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait dire ça?
Ça m'est déjà arrivé de me dire, j'arrête de voir ce psychanalyste. Ça m'est déjà arrivé pour des raisons d'argent, parce que ça coûte de l'argent quand même, quand tu vas pas voir quelqu'un du public, alors qu'il y a des psys géniaux dans le public. Mais là, en l'occurrence, c'était pas un mec du public, c'était un psychanalyste privé, enfin indépendant, quoi. Et c'était une période où j'avais plus d'argent à mettre là-dedans. Je mettais plus mon argent là-dedans, et donc j'ai dû arrêter. Après, ça m'est arrivé d'arrêter de travailler avec quelqu'un aussi, parce que j'avais l'impression que... j'étais allée au bout de ce que j'étais venue travailler avec cette personne. Mais dans l'absolu, non. Je pense que, en fait, moi, j'adore l'idée qu'on évolue toute la vie et qu'on a toujours... Enfin, voilà, moi, j'ai besoin de tout le temps comprendre. Après, je vais pas voir... je vais voir des thérapeutes régulièrement, mais pas souvent, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, je peux faire une séance... Je peux faire 3 séances en 3 mois et après, je peux ne pas faire de séance pendant 4 mois. Tu vois. En fait, j'ai tendance à appeler ma thérapeute avec qui je travaille super bien et avec qui je trouve que ça fonctionne très bien. En tout cas, ça me satisfait beaucoup, quoi, le travail, entre ce que je vais chercher dans notre travail et ce que j'en tire, ce que ça m'apporte. C'est très satisfaisant pour moi. Je me sens avancée sur des choses de manière vraiment très précise et très évidente. Et ça, je pense que... je fais appel à elle et à ses talents à chaque fois que je me retrouve dans un angle mort et que dans cet angle mort j'ai le sentiment que je peux plus avancer, en fait, que j'ai essayé déjà tous les outils qu'on a travaillé ensemble et sur lesquels on a travaillé ensemble, j'ai réfléchi, j'ai parlé, j'ai tenté plein d'options et j'arrive pas à avancer. Quand je sens que je bute sur un sujet en particulier, je finis par l'appeler et je fais des sessions, des séances. Mais donc non, il n'y a pas de cas où je me dis que j'arrête ou que je suis allée, non.
Sur quoi t'as avancé récemment, sur lequel t'aurais aimé avancer plus tôt? Est-ce que t'as réussi à régler quelque chose récemment?
Oui, mais en fait, j'ai pas le sentiment que j'aurais aimé le régler plus tôt. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je me sens connectée à la personne que je suis et je me sens vraiment alignée. Je pense que je me suis jamais sentie aussi bien dans mes pompes qu'aujourd'hui, que la période que je traverse là en ce moment. Et en fait, j'ai un petit mantra qui est le bon et le juste. Et j'ai l'impression que c'est le bon et le juste pour moi que ça arrive maintenant. Et je pense que chaque chose que j'ai traversée, qui était guidée par ces schémas sur lesquels j'avais pas la main et sur lesquels j'avais aucun regard parce que j'en avais même pas conscience et qu'il fallait que je traverse des choses pour les identifier, pour essayer de, voilà, de travailler dessus et de les laisser sur le côté ou de choisir de les embrasser pleinement ou quoi. En fait, je pense que tout ça, c'était le bon et le juste pour moi. Après, évidemment, j'aurais aimé avoir confiance en moi plus tôt, j'aurais aimé connaître ma valeur plus tôt, mais ça, dans mon chemin, c'était pas le bon et le juste puisque ça n'a pas été le cas, quoi. C'est un peu la notion du muktoub ou du karma où tu viens réparer les choses. Enfin, tu vois, c'est le bon et le juste.
Tu vois, en plus, tu nous disais que tu as eu ces valeurs très fortes qui t'ont construite enfant, mais tu t'en parlais dans l'interview de Marie-Claire, t'es partie du foyer familial très jeune, à 16 ans.
Oui.
Comment t'as réussi à finir, entre guillemets, tu vois, ta construction, on va dire, d'adolescente, et comment ce départ, en fait, et cette indépendance a influé sur la personne que t'es devenue par la suite?
J'ai vraiment fini ma construction en menant une vie d'adulte. Je suis montée en effet à 16 ans à Paris, vers cette vie d'artiste. J'avais une vie professionnelle. Et en fait, les gens par lesquels j'ai été entourée, par lesquels j'ai eu la chance d'être entourée, m'ont vraiment accompagnée dans la fin de cette construction-là. Donc il y a eu des choses magnifiques, il y a eu des choses plus difficiles, mais j'ai eu la chance d'être entourée par des êtres humains d'exception qui m'ont appris mon métier. Involontairement et volontairement à des endroits. Et humainement, ces gens-là sont des trésors. Donc ça, c'était bien le bordel, hein, parce que c'était joyeux, mais c'était un peu n'importe quoi aussi, parce que du coup, ces gens-là étaient un endroit de projection de tout à la fois. Tu vois, ils se sont retrouvés à être mes parents, à être ma famille, à être mes amis, à être mes profs, à être des gens que j'aimais profondément. À être presque des crushs amoureux à des endroits. Enfin, tu vois, c'était... Donc, c'était... Pff, vraiment n'importe quoi. Et en même temps, c'était magnifique, c'était d'une beauté, c'était des années, c'était dans les plus belles années de ma vie, je crois, vraiment.
C'est la nouvelle star qui t'a permis d'être connue du grand public.
Ouais.
Je ne me rappelle pas ce que c'était les épreuves pour candidater à l'époque. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, est-ce que tu te souviens du jour où tu dis « Allez, c'est parti, je dépose ma candidature, ouais. Je veux faire la nouvelle star ».
En fait, ma sœur a passé le casting un ou deux ans avant moi et j'avais fait promettre à mes parents de m'y emmener quand j'aurais 16 ans. Et un jour, je suis chez moi, mes parents sont partis faire des courses et la publicité passe à la télé. « Inscrivez-vous, nouvelle star, machin ». Et je me dis « Putain, mais ça y est quoi ». Donc j'ai appelé, c'est moi, je suis là les gars, non je plaisante. Non mais je me suis dit ça y est, je vais pouvoir enfin passer ce casting parce que donc, ça a commencé, j'avais 7 ans, 8 ans je crois, tu vois, donc je connaissais tous les candidats, tous les lauréats, lauréates et tout. Et je me suis dit ça y est, j'ai l'âge et donc j'ai appelé le numéro et il disait il y a trop de personnes inscrites, c'est mort. Je me suis dit non mais c'est pas possible quoi, je suis allée sur le PC familial et je me suis inscrite. Et là, juste après mon inscription, mes parents sont rentrés des courses. Je les ai entendus, j'ai entendu la voiture, j'ai ouvert la porte de la maison. J'ai descendu à peine quelques marches qui menaient à là où ils étaient, cette voiture, la voiture là. Et ils ont ouvert les portes, ils commençaient à décharger les courses et je les ai regardées. J'étais interdite et en fait, je me souviens de mon père qui m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et en fait, je me souviens, je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit « Je me suis inscrite à la Nouvelle Star ». Et je me suis effondrée, tu vois. C'est fou.
Ah, c'est beau, ça me touche. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?
Je sais même plus ce qu'ils m'ont dit. Je sais plus, je pense que mon père, il a dû me dire, bah ok, c'est cool. Mais je me souviens de mon père qui me voyait, qui me disait, mais qu'est-ce qui se... Enfin, il voyait qu'il se passait quelque chose, que je pense que je devais avoir une tête. J'étais interdite, tu vois, comme si karmiquement, il y avait un...
Tu venais de passer
une étape, passer une étape de vie,
ouais,
tu vois.
Ouais, ouais.
C'était fou.
Et après, t'es rappelée pour passer le casting ?
Et ben après, en fait, j'ai été punie d'abord, donc ma mère m'a dit « tu passeras pas le casting ».
Pourquoi ? Parce que tu les avais pas consultés pour t'inscrire ?
Non, rien à voir, parce que ma mère me punissait beaucoup quand j'étais gosse. Elle faisait plein de choses géniales, mais aussi, elle me punissait beaucoup. Et à ce moment-là, elle avait décidé de me punir, je ne sais plus pour quelle raison. Et donc, non, elle m'a punie une semaine avant le casting. Elle avait eu cette formule géniale dont ma mère seule a le secret. Elle m'avait dit, ton histoire a même pas commencé, qu'elle est déjà terminée. Tu n'iras pas passer ce casting. J'étais genre, yes.
C'est un mauvais film.
Ouais, j'étais genre, s'il te plaît. Elle me disait rien, me disait rien, me disait rien. La veille au soir, j'étais en train de passer mon fer à lisser sur mes cheveux à minuit. Parce qu'il fallait que ce soit parfait, parce que c'est vrai que pour aller se coucher, c'est important d'avoir un brushing parfait. Et du coup, je me suis retrouvée en train de me lisser les cheveux. Mon père est rentré du boulot, parce qu'il rentrait très tard du boulot. Et donc on se croisait, parce que moi je tardais beaucoup entre mes devoirs et mon lissage. Et il est venu me saluer dans la salle de bain, il me dit « mais tu dors pas ?» Je lui dis « bah non, je vais y aller là ». Il me dit « mais t'es prête pour demain ?» Je lui dis « bah oui, je vais en cours quoi ». Il me dit « mais non, le casting ?» Je lui dis « bah je sais pas, non, je suis punie, non ». Et je l'ai vu tiquer, et puis en fait je l'ai suivi, ce que je faisais très rarement quand j'étais petite, parce que j'avais hyper peur de me faire cramer, moi j'étais très...
obéissante. Comme on t'imagine.
Mais
pas du tout.
Dingue, mais vraiment, mais laisse tomber. C'est peut-être ça. Hein. Non, non, j'étais hyper. Alors là, vraiment. Et donc, je l'ai suivi. Et en fait, je les ai cramés avec ma mère en train de se parler. Mon père qui dit, mais tu lui as pas dit à la petite. Et elle qui lui a dit, mais non, mais je voulais lui faire la surprise. Il lui dit, mais il est minuit. C'est maintenant, là. C'est fini, la surprise. Ça y est, tu vois. Et voilà. Et donc, le lendemain, mon père m'a emmenée à Marseille. J'ai passé le casting, le pré-casting que tu passes en fait devant la prod. Moi, j'étais passée devant Alexandre Dankos, qui était directeur artistique de l'émission, directeur musical, qui m'a donc fait passer. Je suis passée le lendemain devant le jury. Après ça, il y a eu l'étape du théâtre à Paris, au Trianon, qui durait plusieurs jours, qui était très difficile, où ils nous poussaient, manque de sommeil et tout, pour voir, j'imagine, un peu qui tient dans ces conditions-là pour l'émission derrière. Après ça, il y a une autre étape où tu fais rien, et juste ils réfléchissent, ils disent toi oui, toi non, hyper dur, hein, du coup... Un exercice de patience important. Et puis après ça, les primes.
Quand on t'annonce que tu fais partie des sélectionnés, qu'est-ce que tu ressens ?
Tu parles du premier casting ?
Non, non, quand on te dit...
Tu vas passer les primes,
quoi. Ouais, tu vas faire la nouvelle star.
Oh, bah, je sais pas, franchement, j'y croyais pas trop, je pense. En fait, je te dis la vérité. Quand je pense à cette époque de ma vie, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je me dis, je pense que... En fait, j'étais à un degré d'inconscience de ce que je faisais. Et en même temps, à la fois, j'étais à chaque prime hyper stressée, hyper traqueuse. Enfin, tu vois, 4 millions de téléspectateurs, le public, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais revu ça de ma vie. Les gens, le public de la télévision, de la Nouvelle Star, c'était fou. Mais fou. C'est-à-dire que tu t'entendais à peine la musique pour pouvoir chanter. Les gens
hurlaient.
C'était incroyable. C'était fou d'être porté par cette énergie-là. Je sais pas. J'étais guidée, soutenue par une force. Je sais pas.
La naïveté, c'est...
La candeur. Hein. Ouais, la force de la candeur.
La force de la candeur. Ne pas savoir ce qui t'attend.
Exactement. Et ne pas savoir même ce que tu traverses.
Ouais. Parce que j'imagine que c'était pas tout rose à cette époque. Ça doit être très dur, ne serait-ce que du jour au lendemain, tout change pour toi.
Bah, franchement, là où j'ai eu beaucoup de chance quand même, c'est que... Alors oui, ça change du jour au lendemain. Je me rappelle de mes 13 000 demandes d'amis sur Facebook à l'époque.
Ah là, t'étais fraîche. Ah ouais. Je me souviens que quand on avait 1000 déjà, on passait un palier en mode genre « Waouh, elle pèse !»
Et voilà, je me rappelle, c'était 13 700 et quelques. Okay. Sur Facebook, j'étais genre « Waouh !» C'était trop marrant. Enfin, trop marrant. C'était insensé à cette époque, c'était insensé. Mais non, là où on avait beaucoup de chance, c'est qu'on était très protégés par la production.
D'accord.
Vraiment, on vivait dans un cocon. La prod prenait grand soin des candidates et des candidats. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Avec Marie, avec Renaud, avec Laurent, avec... Non, c'était des gens... Non, j'ai été protégée.
Qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Qu'est-ce que tu te dis une fois que cette aventure se termine?
Eh ben, le soir même, juste après mon élimination, il y a Sony qui m'a proposé, Christophe Laméniard à l'époque, qui dirigeait Sony Music, en France, m'a proposé de faire un album direct.
D'accord.
Et en même temps, j'avais un pote journaliste dans l'émission. Enfin, je m'étais faite pote avec un journaliste qui travaillait dans l'émission, qui me disait il y a mon pote de chez Le Grand Journal qui dit que. Enfin, ils veulent t'inviter cette semaine. Et pour. Enfin, je pense que tu te rappelles de ce que c'était Le Grand Journal, quoi.
Ouais, je me rappelle, ouais.
Pour moi, vraiment, j'avais plus les papillons à ce moment-là du Grand Journal. En fait, j'avais pas compris l'information de tu vas faire un album, ta vie va changer.
Toi, t'étais là, je vais faire
Le Grand Journal, quoi, tu vois. Mais il y avait Yann. Si Yann, il était là, mais c'était Michel Denisot.
D'accord.
Et qui était en plateau. Et tu vois, je me disais, putain, je vais être sur le plateau du Grand Journal, quoi. Et donc, je me suis retrouvée, en fait, à faire des allers-retours entre le Sud et Paris pour commencer à rencontrer mes équipes, préparer l'album. En même temps, j'étais en tournée avec les finalistes de la Nouvelle Star d'été. On tournait d'été. Et en même temps, voilà, je préparais l'album, je commençais à travailler, je cherchais des apparts. Enfin, c'était le début d'une vie.
T'as toujours su que c'est ce que tu allais devenir, artiste ?
Devenir, non, mais c'est toujours ce dont j'ai rêvé, ouais. Ouais, okay. Ouais. Gamine, je me suis toujours dit, mon rêve, c'est d'être chanteuse et ou actrice. Mais moi, j'ai grandi à la Londres, les morts, j'avais pas d'exemple d'artiste dont c'était le métier, tu vois. Pour moi, t'étais soit Madonna, soit prof. Donc, je voulais être prof de langue à l'étranger. Et puis, en grandissant, je me suis dit, non, en fait, je vais passer un diplôme de lettres, de langue. Et après, je vais faire un master. Et comme ça, je pourrai voyager, organiser des festivités à l'international. Je serai dans la culture, je serai avec des artistes et je pourrai voyager. Meilleure vie. Ce qui est un super business plan, hein,
quand même.
Ouais.
Et au final, t'as pas passé le bac et tu t'es dit, on va chanter, les gars.
On est là, j'ai fait ça.
Ça t'a fait peur, ça, de pas avoir, tu sais... Enfin, je me souviens de cette époque, on nous parlait beaucoup de l'importance d'avoir un bagage. Tu sais, ce mot qui veut tout et rien dire, quoi. Ouais. Ça t'a pas fait peur de pas avoir ce bagage?
Quand même, je me souviens de ma mère qui avait accepté devant Renaud Rare, le producteur, l'un des producteurs, en disant, bon, bah voilà, si elle redouble, elle redouble, c'est son chemin. J'étais un peu genre, waouh. Ma mère qui est...
Queen.
Et puis, ouais, mais qui était madame stricte et madame sévère dans l'éducation qu'elle nous donnait. Ma mère a toujours été, mais comme ça, tu vois, et très aimante, très généreuse, très vivante, très drôle, mais très stricte, très sévère, quoi. Et donc, je l'ai entendu dire ça, je croyais pas ce que j'entendais. Et quand La Nouvelle Star s'est finie et que j'ai commencé à faire l'album, à travailler sur l'album, pour autant, je me suis quand même inscrite sur Acadomia pour passer mon bac en candidate libre et tout ça. Parce que j'avais pas imprimé à quel point j'avais un métier et à quel point c'était impensable, en fait. Tu vois, il y avait pas de place du tout pour ça.
C'est pas le temps pour toutes les passions, quoi.
Non.
À ce moment-là, enfin, je veux dire, une fois que ton premier album sort, que ça se concrétise, est-ce que la peur arrive à un moment donné ?
Je pense que j'ai eu évidemment le trac quand le premier album est sorti. Je pense que je l'ai beaucoup plus maintenant.
C'est vrai ?
Pour une sortie d'album, ouais. En fait, il y a un lâcher-prise à un moment, mais je pense qu'à l'époque, j'avais tellement pas conscience.
Ouais.
C'est-à-dire que l'équivalent de ce qui est normalement pour tout le monde les années d'études, où tu sors boire des coups avec tes potes, t'apprends un métier et tout ça, moi, je vivais ça. J'étais à Paris avec des musiciens, des musiciennes, je vivais seule, je partais en tournée, j'allais en studio, je fumais des clubs, j'allais en club... J'allais à des concerts, enfin, et je découvrais la notoriété. J'étais en tournée, enfin, c'était, enfin, quand on y pense, c'est fou comme vie. Donc, je pense que j'avais pas conscience. Non.
Est-ce qu'aujourd'hui t'as plus peur parce qu'il y a la peur de faire moins bien, de pas faire assez?
Non, parce que encore une fois, je considère que ce que je fais, c'est le bon et le juste. Donc, moins bien ou pas assez, c'est pas entre mes mains. Parce que ce que je le fais avec le cœur et je me bats pour le faire de la manière la plus sincère possible. Donc non. En revanche, je pense que j'ai peur parce que j'ai déjà essuyé des échecs. Mmh. Et que je sais ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est dur. C'est dur. C'est hyper dur.
C'est une forme d'invalidation de ta personne ?
Non.
Tu le ressens comment ?
Je le ressens comme une injustice, mais c'est pas... Si tu veux, l'échec en question, c'est les gens ne sauront pas que ça existe. C'est pas les gens disent que c'est nul, ou que ça leur plaît pas, ou ça c'est ok. Je crois que je peux, ça, je pense que je serais piquée à un endroit, mais je crois que c'est plus facile à entendre que ta musique ne parviendra pas aux gens. Ça c'est le pire. C'est le pire pour moi.
Comment tu l'as vécu ? Comment t'as réagi ? Qu'est-ce que ça a changé ?
Je me suis battue jusqu'au bout pour que ça parvienne quand même aux gens.
Okay.
Tant que possible. J'ai mis toute ma santé, toute mon énergie, toute mon âme quotidiennement. Beaucoup de burn-out, beaucoup d'états dépressifs, parce que épuisement total et combat solitaire, quoi. Donc c'est hyper dur. C'est hyper dur.
C'est quoi la période la plus difficile de ta vie ?
C'est une bonne question. Bah, je pense que c'est ça. Hein. La période la plus... Non, le... Dans l'enfance, j'ai eu des périodes vraiment très dures.
Et ce qui est horrible, je trouve, quand ça arrive dans l'enfance, c'est que ben là, pour le coup, c'est très dur d'en prendre conscience.
Mais c'est ça.
De la portée, de, ouais. De l'impact.
Ouais. Mais c'est pour ça que, encore une fois, assez. Les psys, ça aide pour ça.
Ouais.
C'est à ça que ça sert, ce que je disais aussi dans l'interview qu'on évoquait pour Marie-Claire, c'est ce truc de, en fait, j'aimerais ô combien... que tous les enfants aient droit et accès à des psys, parce que c'est le moment où on peut tout nettoyer, parce que le cerveau est en train de se construire, quoi. Et justement, moi, j'ai eu cette chance, et ouais, ça, c'était dur. Et dans ma vie d'adulte, cette période-là, ouais, cette période où, en fait, t'as mis toute ton âme, toute ton énergie, tout ton amour, toute ton envie, tous tes désirs, tous tes rêves au quotidien, il n'y a rien d'autre, parce qu'en plus, la vie d'artiste, si c'est ton projet, il y a rien d'autre. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. Il y a la place pour plus rien pendant un temps donné. Rien, mais rien. Rien.
Pendant quelle période ?
Bah, toute la période où tu sors. Enfin, moi, je sais que les périodes de sortie, les périodes de sortie d'album, il n'y a plus rien. Il y a la place pour rien d'autre que ça.
Et tu dis quoi ?
Et ça dure des mois.
Si t'es maquillée, tu dis quoi à ton mec ? Désolé, t'es pas ma priorité ?
Aujourd'hui, j'ai pas de mec et ça me va très bien, justement, parce que c'est pas ça ma priorité.
Ouais. Mais à l'époque où tu l'as été, est-ce que ça s'est... Enfin, tu vois, je trouve ça très difficile de... Comme notre société...
Enfin, c'est pas ça ma priorité, mais le couple est un vaste sujet aussi, mais pardon, je t'ai
coupé,
tu disais...
Ouais, mais trop bien, non, mais on en reparlera, mais parce que justement, je trouve que la société nous fait culpabiliser de ne pas placer l'amour... en priorité numéro une de nos vies.
Enfin, bah complètement,
femmes,
ouais.
Évidemment,
ouais,
tu vois,
ouais, bien sûr.
T'as évidemment ce terme de carriériste.
Ouais.
Franchement, j'ai jamais entendu utiliser au masculin.
Non.
En fait, c'est juste de l'ambition.
Oui.
Et si c'est ça qui nous nourrit, pourquoi est-ce que ça devrait être moins noble que quelqu'un qui place son couple comme étant la priorité de sa vie ? Enfin,
ouais, bien sûr.
Et un jugement autour de ça qui est quand même encore fort.
Et toutes les positions sont légitimes, en plus, que tu veuilles mettre ton couple ou ton
chien,
métier ou
ton
chien ou tout ce que tu veux au centre de ta vie. Je pars du principe que il faut se lâcher la grappe et, ouais, et laisser les gens faire ce qu'ils et elles veulent et les laisser avoir la vie qu'ils entendent, quoi, surtout. Mais non, du coup, c'est vrai que... Les fois où j'étais en couple, quand j'ai sorti des choses, La première fois que ça m'est arrivé, je travaillais avec la personne avec laquelle j'étais régulièrement, donc ça a aidé, mais ça a fini par être compliqué. La deuxième fois que ça m'est arrivé aussi, en fait, à chaque fois, c'était l'enfer.
Pourquoi c'est un sujet, un vaste sujet pour toi, le couple ?
Parce que je crois pas du tout en cette injonction.
Ok.
Au couple, je crois pas du tout en l'injonction à l'exclusivité au couple. Et étant donné que je découvre cet endroit de moi, je pense qu'il va me falloir beaucoup de temps avant de pouvoir envisager autre chose. Et en fait, je suis tellement ma priorité là en ce moment, dans tout ce que j'entreprends, dans mon militantisme, dans... dans mon art, dans ma création, dans les causes que j'ai envie de défendre, dans les relations que j'ai envie de nourrir. Enfin là, l'idée d'être ensemble, le lave-vaisselle et la série, là vraiment, je... C'est une autre vie pour
moi.
C'est une autre vie. Et j'ai adoré le faire et je me souhaite d'avoir à nouveau envie d'adorer le faire parce que quand on aime faire ça, c'est extraordinaire à vivre, quoi. C'est vraiment un endroit d'amour, de sécurité, de plénitude, c'est extraordinaire. Mais me projeter dans ça là aujourd'hui,
Qu'est-ce qui te freine aujourd'hui dans ton ascension ?
Des choses qui ne sont pas de mon ressort.
Mais encore. Les conditions extérieures ?
Aujourd'hui, honnêtement, je me sens pas freinée.
Ok.
Dans mon ascension, parce que je me suis entourée des bonnes personnes aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois que je me sens aussi bien entourée. Dans mon équipe, enfin dans les gens qui m'entourent en fait, que ce soit intime, privé, professionnel, amical, enfin vraiment.
Quel conseil tu donnerais à Camélia à 20 ans pour qu'elle s'entoure mieux ?
Arrête de faire confiance à tout le monde, la confiance ça se gagne. La confiance se gagne, ouais, la confiance ça se gagne. Et pas tout le monde n'est digne des valeurs dont tu es faite. Donc tu n'es pas obligée d'en faire profiter tout le monde.
Comment tu répartis ton temps aujourd'hui entre l'acting et la musique et ton militantisme et tes engagements ?
Eh ben, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable qui fait rentrer des ronds dans des carrés pour que tout soit possible dans la même année.
C'est une belle expression, des ronds dans des carrés.
C'est vraiment ça.
J'aime bien.
C'est tellement ça qui se passe. et en même temps, ça c'est pour le côté logistique et pour l'aspect plus intime et émotionnel. Il y a des fois où ça, c'est le grand 8, mais je vais être honnête, je suis vraiment complètement addict à ça.
Bah merci.
Mais je te jure,
mais parce que j'en ai déjà parlé sur ce podcast, moi, l'injonction à ralentir
non.
m'énerve.
Merci, non.
En fait, c'est chacun doit trouver, encore une fois, ce qui lui correspond.
Ouais.
Si ce rythme te fait kiffer,
ah ouais.
Kiffe.
Ah
fait,
ouais, non, cette vie est pas une autre.
On va pas s'excuser non plus. Non.
J'adore ça.
Et tu vois, il y a plein de podcasts sur le fait de ralentir, de machin. Je vois pas de podcast sur le fait d'accélérer.
Non mais
on fait quoi pour les gens qui veulent accélérer genre. Enfin bah, heureusement il y a une peur mais.
Non c'est j'aime trop ça, je suis complètement addict à ça, à avoir 12 rendez-vous dans la journée, me coucher éreintée et sentir que j'ai tellement avancé, que j'ai abattu un travail que normalement j'aurais pu abattre en 2 mois. Et me dire vraiment j'ai là en une journée, il y a des fois où je me dis mais c'est fou. C'est fou là ce qu'on a fait avec l'équipe aujourd'hui.
Et est-ce que tu arrives à conserver ta liberté ? Parce que j'imagine que l'envie de jouer et l'envie d'écrire ou de chanter, c'est pas la même. Est-ce que tu arrives à consacrer certaines périodes à une de ces activités ? Ou est-ce que tu dois t'adapter finalement à ce qu'on te propose, à tes obligations aussi, tu vois ? Comment tu arrives à ce que le plaisir reste le fil conducteur de tes journées ?
Ben, ma priorité reste mon projet musical. En fait, pas que, mais mes priorités en termes de projet restent mes projets perso. C'est-à-dire des films que j'ai envie d'écrire et de réaliser, mon livre, mon documentaire. Mais c'est vrai que quand j'arrête de travailler sur un de ces projets et que je me concentre sur le projet de quelqu'un d'autre, si je le fais... Je mets entre parenthèses mes propres projets à moi. Et j'en ai de plus en plus, j'ai cette chance d'être accompagnée en plus par des gens que j'estime vraiment, donc c'est extraordinaire. Mais ça fait que si je mets tous mes projets entre parenthèses pour le projet de quelqu'un d'autre, si j'y vais, c'est vraiment parce que mon ventre me dit que je dois y aller et que je le fais. J'y mets le même amour et la même énergie que dans mes propres projets, tu vois.
Tu fais les choses à fond ou tu les fais pas, quoi.
Oui. Du coup, le plaisir, il est là.
Ouais.
Tu vois. Sinon, je reste sur mes projets et je prends déjà énormément de plaisir. Ouais.
Et donc, j'ai lu que tu écrivais un livre et un documentaire sur la masculinité.
Ouais, mais je sais pas pourquoi ce truc a fuité alors que je travaille plus sur ça.
Ah, tu travailles plus
enfin, je travaille plus sur ça. Alors, j'écris un livre sur lequel je traîne parce que justement, j'ai beaucoup de chouettes projets, donc j'arrive pas à avancer.
Ah, mais je conseille, j'écris. En fait, tu t'isoles. Il y a pas d'autres options.
Mais t'es obligé, sinon ça marche pas.
Impossible.
Impossible. Donc j'essaie régulièrement. J'écris un essai.
Trop bien. Sur quoi ?
C'est un essai à la première personne. En fait, j'ai pris conscience de. Je connaissais la capacité de l'impact des mots dans la vie, mais pas des miens. Et suite aux polémiques de 2020, j'en ai pris conscience. Suite à l'apostrophe du ministre de l'Intérieur après mon passage chez Laurent Ruquier, dans lequel j'ai parlé de beaucoup de choses, y compris des violences policières, et puis après, du coup, du vidage de sens de mes propos et de tous les dires qu'on m'a prêtés qui n'étaient pas les miens, etc. Et donc là, il y a eu une grande, grande polémique et j'ai subi une grande vague de haine et de tout ce que tu veux. Et du coup, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, que ma parole soit capable de déclencher une telle tempête. Et j'ai décidé de voir ça comme un pouvoir. Et du coup, j'écris sur ça.
As you should. Je suis très énervée, moi, contre les justiciers du net qui n'ont jamais parlé pour dire, tu vois, un propos construit et argumenté.
Ouais.
Ou juste eu le courage de parler à visage découvert, tu vois. Donc je trouve ça génial que t'écrives là-dessus. Et du coup, la masculinité, tu commençais un docu dessus et tu t'es dit non, en fait...
Je commençais un docu dessus et puis j'ai été emportée par plein de projets. Et du coup, pour l'instant, il est entre parenthèses, mais je l'ai toujours en tête. Et là, je travaille sur un documentaire sur la Villa Noailles, qui est un endroit magnifique à Hyères-les-Palmiers, qui est un centre d'art, qui a été mon premier contact avec l'art en général.
D'accord.
Et sur la Villa Noailles et son directeur, Jean-Pierre Blanc. Qui est comme un frère de cœur, qui est un astre, un phare dans la nuit. Et donc je raconte cet endroit qui est ô combien important pour la création en France, dans cette région en particulier aussi, et qui est fait de personnes magnifiques qui mènent cette barque vraiment sublimement, avec beaucoup de force.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur de réaliser sur la masculinité ?
À l'époque, c'était les débuts, les prémices un peu de MeToo, et en fait, j'ai eu une conversation avec un homme que je pensais plutôt féministe et je me suis rendu compte qu'en fait on n'y était pas du tout et du coup j'ai eu envie d'interroger la masculinité elle-même, de l'interroger elle-même parce que je pense que les avancées féministes ne seront possibles qu'une fois que les hommes se joindront à cette cause dont ils bénéficieront aussi.
Qu'est-ce qui est le plus dérangeant pour toi dans la conception qu'on a de la masculinité aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as envie de dénoncer ?
L'écrasement, la domination. Je trouve que c'est la plus grosse erreur du patriarcat et du système capitaliste dans lequel on vit. Et attention, hein, je suis un pur produit, malheureusement, du capitalisme. Tu parles de masculinité, mais quelle qu'elle soit.
Ouais.
L'écrasement et la domination, pour moi, c'est la plus grosse erreur possible.
Ce qui est dur, c'est que c'est pas palpable. Ce qui est dur, c'est que c'est pas palpable. Je l'ai dit, je l'ai bien dit ou pas?
Ouais, tu l'as hyper bien dit, c'est juste que ça m'a fait penser à Jamel Debbouze dans Mission Clopette qui dit vraiment il est bizarre ce sol, il est pas papable.
Et t'as fait exactement ça. Non mais tu vois, il y a un côté où je pense que c'est un ressenti qu'on a toutes déjà eu, mais c'est presque comme se battre contre un ennemi invisible.
Je pense qu'il est invisible tant qu'on veut pas le voir. C'est une chose complètement palpable. Moi, du jour où j'ai lu Présente de Lorraine Bastide,
qui sera la semaine prochaine sur InPower. Voilà.
Stylé. Du jour où j'ai lu Présente de Lorraine Bastide, je ne pouvais plus voir une femme rentrer dans une boutique et saluer le manager de la boutique sans voir ce dont on parle. Vraiment. En fait, je pense que c'est un choix. Et c'est comme tout, à partir du moment où tu le vois, tu peux plus faire sans, quoi. Tu peux plus choisir de ne pas le voir. Après, faut faire le choix de passer de ce côté-là. Ça, c'est du taf. Moi-même, hein, attention. Hein. Et je continue d'avoir de la misogynie, tu vois, à l'intérieur, dans tous les sens, à devoir nettoyer et tout. Mais
De quoi on parle pas assez, selon toi ? Parce qu'il y a plein de sujets qui commencent à être mis sur le devant de la scène. Féminisme, la santé mentale.
Ouais.
De quoi est-ce que t'aimerais parler plus ?
J'aimerais que le féminisme antiraciste prenne plus de place.
Est-ce que tu as des ressources à recommander aux personnes qui nous écoutent ?
Ouais, il y a un podcast extraordinaire qui s'appelle Kif Taras de Rokhaya Diallo et Grace Lee, qui est exceptionnel, qui a changé beaucoup de choses en moi, qui m'a vraiment déplacée et qui m'a aidée beaucoup, qui m'a éduquée, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses de ce que je vivais, de ce que je voyais. Et je pense que pour toute personne, qu'on soit racisée ou non, vraiment, on peut mais dévorer ce podcast et comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et après, évidemment, les bouquins de Bell Hooks, d'Angela Davis, de Audrey Lorde.
Ok. Ouais. Je m'adapte ça dans les notes.
Ouais.
C'est quoi ton processus créatif ?
Tu vois, quand tu regarder le monde.
Ok.
Pour des chansons, en tout cas.
Hein. Ouais.
Regarder le monde. Ouais, ça me... Vraiment, l'art, pour moi, c'est un moyen de survivre. Et donc, dès qu'il y a un blocage, dès qu'il y a un angle mort, dès qu'il y a une chose qui me fait bloquer, en fait, le fait d'en faire une chanson, ça c'est une manière pour moi d'évacuer le trop-plein.
Est-ce que tu as déjà pleuré en écrivant une chanson ?
Ouais.
Laquelle ?
Ma gueule. C'est une chanson que j'ai écrite parce que je rentrais d'une création de théâtre à Saint-Denis en métro. Et sur la 13, il y a un monsieur noir qui s'est assis à côté de moi. Et il y a une femme qui est rentrée en même temps que lui, très très virulente, qui l'a regardé et qui lui a dit « qu'est-ce qui... » C'était un monsieur, hein. C'était pas un jeune homme, c'était un monsieur. Un monsieur de au moins peut-être 60 ans, quoi. Et cette femme un peu plus jeune, qui devait avoir, je sais pas, 40-45 ans, elle lui a dit, elle le regardait et elle lui a dit « qu'est-ce qu'il a celui-là ? Il pue celui-là, hein ! Il pue celui-là, hein !» Et absolument personne n'a rien dit. C'était une heure de pointe. Le monsieur à côté n'a rien dit. Il avait la main sur son caddie qui tirait, tu sais, le chariot là pour faire des courses. Il avait les mains sur son chariot, il faisait juste comme ça, il clignait des yeux. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « bon bah j'ai trois options. La première, c'est m'effondrer. La seconde, c'est gerber. J'ai vraiment physiquement eu un haut-le-cœur. Et la troisième, c'est de hurler sur cette folle. » Et en fait, j'ai été sidérée. Et du coup, j'ai juste regardé ce monsieur qui regardait droit devant lui, qui fixait sa main. Et je l'ai juste regardé en faisant... Je sais pas, je devais avoir 22, 23 ans à ce moment-là. J'avais pas de mots, en fait. Mmh. Je voulais juste lui dire « Waouh, la pauvre, elle en est là, tant pis pour elle. » Enfin, je serais évidemment pas du tout... Je saurais très bien, je pense, aujourd'hui, comment réagir à une séquence comme celle-ci. À l'époque, en tout cas, j'étais sidérée. Donc, je suis rentrée et j'ai écrit cette chanson « Ma gueule ». Et quand je suis rentrée, j'étais encore beaucoup sur Facebook à cette époque, et ma sœur venait de m'envoyer un documentaire sur Kateb Yassine, qui est un auteur algérien, qui a beaucoup écrit des choses magnifiques. Et ce documentaire s'ouvre sur lui, devant des travailleurs algériens du 13e arrondissement de Paris qui construisent Paris pavé après pavé. Et il les montre comme ça, il est très élégant, c'était un très bel homme avec son col roulé, sa veste, et il dit « Ici, c'était des heures d'ennui, des pesants de tristesse, on pensait au pays. » J'ai mis pause, j'ai noté ça, j'ai pensé lui voler pour un pont et je me suis dit « Non, on ne fait pas ça dans la vie, c'est mal. » Et j'ai écrit en écriture et en compo automatique « Ma gueule ». Qui dit sur le refrain « Il y a des fois où je me sens seule, il y a des fois où j'ai peur de ma gueule d'étranger, ma gueule qui sait pas où aller, ma gueule. » Et en écrivant ça, j'ai pleuré, du coup, pour répondre à ta question.
T'as beaucoup de tatouages ?
Ouais, j'en ai plein des petits.
C'est lequel le premier que t'as fait ?
J'en ai fait 8 d'un coup, pour la première fois. Mais c'était plein de petits, tu vois, c'était des petites choses sur les mains, un peu partout, sur les doigts, le
poignet. Pourquoi t'as écrit « Never » sur la main ?
Ça, c'est pas un tatouage, c'est j'ai écrit sur mes mains « Never Again », en lien avec ce cher Pins, qui est un Pins qui vient de la demande des artistes pour un cessez-le-feu en Palestine, à Gaza. Et donc « Never Again », ça va avec ça. Je faisais des photos tout à l'heure et j'ai demandé à la photographe, j'ai dit « Psst, t'as un feutre avec toi ?»
C'est tellement bien fait que je pensais
que c'était un tatouage. T'as vu comme c'est trop bien ce qu'elle a fait ? Elle m'a dit « Bon, je suis pas dessinatrice. » J'ai dit « Mais tu rigoles, c'est trop bien ce que t'as fait. » Bon, elle a fait ça hyper bien, je la remercie.
Qu'est-ce qui t'inspire ?
Les femmes m'inspirent énormément, de plus en plus, jour après jour. Plus je les écoute, plus je les vois faire, plus je lis des choses sur elles. Et plus je me dis que les femmes sont des héroïnes, toutes. Confondu.
Est-ce qu'il y a une conversation qui a changé ta vie ?
Un jour, Raphaël Lanader, une de mes meilleures potes, m'a dit on est légitime de faire les choses à partir du moment où on a du désir pour elle. Et ça a changé ma vie.
Alors, je suis obligée de te challenger un peu.
Ok.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite pensé à un vieux porc qui désirait me toucher les fesses. Il a du désir pour cette chose, mais est-ce qu'il est légitime pour autant ?
Alors, je vais reformuler. Cette pote était en train de me parler de ça, justement parce que c'était une période où je voulais commencer à écrire des chansons. Ouais. Je la voyais faire des chansons. Raph, c'est une artiste incroyable qui écrit des chansons surréalistes. C'est une autrice, c'est une artiste, mais une autrice vraiment exceptionnelle. Elle a notamment écrit une chanson sur mon premier album qui s'appelle « Je pars » et toutes ses chansons à elle sont folles. Et en fait, elle me disait ça parce que je lui disais à quel point j'avais du désir pour l'écriture, pour la composition. Et justement, c'était l'époque où j'étais encore écrasée sous mon sentiment d'impostrice de ouf, d'illégitimité, de complexe d'infériorité et tout ça. Et c'est elle qui m'a dit, écoute, dans la vie, on est légitime de faire les choses à partir du moment où on a du désir pour elle. Donc c'était plus empowering que
ma vision,
que les vieux
malheureusement. Ouais. Je prends. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois ?
Eh ben là, je suis venue à Sérimania et c'était la première fois.
Ok.
Ouais.
Comment ça se fait que t'étais pas là les éditions précédentes ?
C'était la première fois que je jouais dans une série. Ouais. Enfin, j'avais déjà joué dans une série, mais c'était un tout petit rôle. Ouais. Et l'année dernière, on a sorti Irrésistible, donc je pense que du coup, ça a fait penser.
T'as d'autres projets de série ?
Pas à ce jour, mais j'adorerais parce que j'adore ça.
Ouais. C'est quoi ta série préférée ? Ou peut-être celle que tu recommanderais ?
Je sais plus si on en a déjà parlé tout à l'heure, mais Bir Baskadir, c'est une série turque qui est sur Netflix, qui est exceptionnelle.
Ok.
Incroyable.
Ma grand-mère m'a dit que les séries turques étaient super.
Folle.
C'est elle aussi qui m'a recommandé les séries coréennes, donc j'ai confiance en son jugement.
Très bon goût.
Totalement.
J'adore. Enfin, très bon goût. C'est bizarre de dire ça, mais yes.
On valide.
Yes.
On valide. J'ai deux dernières questions pour toi.
Ouais.
Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que ce serait ?
Mes deux grands-parents morts.
J'aime trop les grands-parents. Et quelqu'un de vivant ?
T'as déjà reçu Rokaya Diallo ?
Ouais.
Alors, quelqu'un d'autre, attends. Ce serait une de mes meilleures potes que t'as peut-être croisée tout à l'heure quand t'es arrivée. Elle s'appelle Julia Flock.
Ok.
Elle est entre autres maquilleuse.
Mm.
C'est un astre et c'est...
J'aime bien cette expression que tu as pour les personnes.
Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est une personne qui irradie de la lumière, de l'amour. Et c'est l'un des humains les plus extraordinaires que j'ai rencontrés, vraiment. Ouais. Et je pense que j'adorerais l'entendre répondre à tes questions et que les gens y aient accès.
Ok.
Ouais.
Je vais te poser du coup la dernière question, la question signature du podcast.
Ouais.
Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Je dirais que ça veut dire rencontrer son cerveau, découvrir sa propre valeur et écouter son instinct.
J'aime. Non mais tu sais, ça sonne comme une... c'est quoi le terme ? Liberté, égalité, fraternité.
Une devise ?
Une devise, ça sonne comme une devise.
Bah, c'est un peu
la
une devise.
La devise
hein.
De Camilla Jordanage.
J'adore.
On signe, trop bien.
Discipline, quoi.
Écoute, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Ah, écoute, sur mon Insta, je pense que c'est l'endroit où je suis le plus en contact avec les gens tant que possible et où j'essaye de tenir au courant de mon actualité, de mes projets, de comment je me ressens. J'ai tendance à écrire de manière assez spontanée, généralement, quand je poste des choses, que ce soit en post, en story, en quoi que ce soit. Et sinon, j'aimerais bien les rediriger vers la culture pour un cessez-le-feu, qui est une page Instagram très importante sur laquelle... on va pouvoir avoir accès à aussi des collectes en fait de fonds qui sont des liens directs vers des familles gazaouis qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de soutien pour survivre.
Mmh. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast.
Trop stylé.
Et merci beaucoup Camilla pour tout ce que tu fais.
Merci à toi Louise. Merci beaucoup et bravo vraiment.
Un grand merci d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @CameliaJordana et @MyBetterSelf et envoyer un petit message à Camilla si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 350 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche, à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.
Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.